Oh. Ça retec le jingle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Est-ce que tout roule pour vous? Incroyable. Bonjour, il fait chaud. Ah, il fait beaucoup trop chaud. Je sue. J'ai chaud. Je suis fatigué. J'ai la flemme. Nul. Nul, nul, nul. Je suis pas pour. Moi, je vote contre. C'est trop chaud. Petit flight sim du coup. En fait, moi, j'aimerais bien faire du flight sim. Le problème, c'est que flight sim est à côté de la fenêtre. Et à côté de la fenêtre, j'ai l'air chaud de dehors qui rentre. J'ai pas envie de m'asseoir là. Donc, on attendra. Je vis sous le ventilo. Ouais. Ah non, mais je comprends. Alors moi, pour le coup, alors du coup, moi, ça fait, c'est le deuxième été où je me pose la question. Est-ce que je m'achète un climatiseur? Est-ce que je suis un connard? Voilà. Le climat ou la santé? Qu'est-ce qu'on choisit? Ah, parce que d'un côté, je me dis, je travaille ici, c'est mon lieu de travail, je suis travailleur à domicile, techniquement. Enfin, je vis sur Internet, oui, mais physiquement, j'ai été obligé de me localiser quelque part sur la planète, c'est chiant. Mais. Et du coup, est-ce que je m'achète un climatiseur quoi? J'ai pas envie. Et en même temps, si, j'ai très envie. Donc je le fais pas. Un ventilateur déjà, oui, j'ai déjà un ventilateur qui brasse de l'air, ouais, oui. C'est un début, mais c'est. On n'est pas au niveau, hein. Les calculs sont pas bons, viens dans le nord, ouais, c'est l'autre solution. Résiste, prends un ventilo, la clim c'est une fausse solution. La clim c'est une fausse solution, mais quand même, ça aide. Je sais pas, j'ai pas envie d'acheter une clim, déjà c'est hors de prix, et puis non, puis non, puis voilà, puis non, puis c'est. Non, non, c'est nul. Enlève la cam et le t-shirt. Un appartement avec une meilleure exposition. Mec, je suis exposé plein nord. Hein. Je suis exposé plein nord. Hein. Je suis pas l'appartement le plus chaud de la résidence. Hein. En vrai, je suis un des mieux lotis. Alors, le problème que j'ai, c'est que mon appart, j'ai pas de courant d'air. Je peux pas faire de courant d'air dans mon appart. Toutes les fenêtres sont du même côté. Donc ça fait pas circuler l'air, quoi. Et ton chat, il galère pas trop. Mon chat, il perd des poils. Mon chat, il perd des poils en quantité astronomique. Là, juste avant de lancer le stream, j'ai passé un coup de brosse sur le canapé. Oh, j'ai jamais vu autant de poils. C'est entre toi et toi, achète une clim et vois si t'es content de toi. Bah non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas comme ça que les. C'est pas comme ça que se pose la question. T'es sous les toits? Non, je suis pas sous les toits. J'ai vécu 10 ans sous les toits. Je le referai pas. Les toits parisiens, non. Vous savez, on a des gros toits en tôle, là, en plomb ou en fonte. Je sais jamais quel métal c'est. Putain, le rayonnement de chaleur. Enfin, je m'approchais du toit, je sentais le rayonnement de la chaleur sur mon visage. C'est du zinc, voilà, c'est du zinc. Donc l'été je cuisais à feu doux dans le four qui était mon appartement et l'hiver je pelais de froid parce que l'isolement d'un toit c'est horrible, surtout ces toits-là. Donc ouais non non les toits sous les toits non. Quelle idée de se mettre dans le four d'un appartement sous les toits? Bah quand t'as pas de pognon, tu fais avec ce que t'as. Hein. C'est un peu. Voilà, hein. Appartement mal isolé, c'est le lot commun de beaucoup d'étudiants quand même. Une bassine d'eau fraîche pour y tremper les jambes avec des glaçons. Ouais, c'est une technique, ouais. Non mais oui, prendre une douche, prendre un bain froid, j'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais après, bon. C'était la blague du four sous les toits et de ton four. Ah, j'ai pas compris. Pardon. J'ai trop chaud pour le second degré. J'y arrive plus. Je suis cramé. Normalement, l'assemblée, c'est la maison du peuple et le peuple a le droit d'aller se mettre au frais. Je suis d'accord. Je vais demander ça à l'assemblée. Excusez-moi, je peux venir me rafraîchir dans l'hémicycle. En plus, vous en servez pas là en ce moment. C'est les vacances. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Du coup, la blague a fait un four. Oh, vous êtes en forme. Peux pas toucher le potichat. Non, je peux pas toucher le potichat. C'est un potichat non tactile. Y a Syllabus qui vient de sortir une vidéo sur comment résister à la chaleur. Ah, cool, faudrait que j'aille regarder ça. Cool. Fais un bucket challenge. À la finale, tu vas l'acheter, alors bon. Tant que t'essayes pas, tu sais pas. Perso, j'ai pas. Je préfère cramer, mais j'habite à la campagne, donc difficile d'être dans ton corps. Ouais. Ouais, non, mais en fait, chaque année, je me dis, vas-y, est-ce que je m'achète un climatiseur? Et après, je me dis, non, mais en fait, c'est débile, c'est juste une vague de chaleur. Là, on a eu un mois de juillet quand même assez tranquille, on a eu de la pluie, hier soir, il a plu, enfin, tu vois. Je me pose la question de savoir si c'est vraiment si insoutenable que ça. Et chaque été, je me dis, mais c'est débile d'acheter un climatiseur qui va passer genre 10 mois par an dans un placard et que je vais ressortir 2 mois par an pour me rafraîchir. Ça fait tellement de bruit, un climatiseur en plus, c'est terrible. Ouais, en plus. En plus, ça fait du bruit. Une clim réversible qui te chauffe l'hiver. Alors ça peut être une meilleure idée déjà. Une clim réversible, ouais. Parce que moi, l'hiver, quand le syndic décide de pas mettre le chauffage alors qu'il commence vraiment à faire froid, ça me saoule. Non, puis alors la clim, il faut l'évacuer. Enfin, il faut quand même avoir un tuyau d'évacuation de l'air chaud pour la clim. Et je sais pas où je le mettrais. Moi, je suis locataire, j'ai pas le droit de péter les fenêtres pour faire un trou dans la fenêtre. J'ai vu qu'il existait des systèmes que tu peux adapter à ta fenêtre en tissu pour la laisser entrouverte. T'as pas de balcon? Non, j'ai pas de balcon. Non, j'ai pas de balcon. Et les radiateurs, tu les utilises combien de temps par an? Les radiateurs, c'est pas moi qui les gère. Hein. Les radiateurs, ils sont gérés par le chauffage central de l'immeuble. Mais ils doivent servir pendant 4 mois, je crois. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça dépend. C'est le pire, les chauffages communs. Bah, c'est le pire et en même temps, c'est le plus écologique, hein. Je vous rappelle que le chauffage central, par définition, l'habitat commun, c'est le plus écolo. C'est le plus économe en énergie. Mais oui, c'est chiant quand ils mettent pas le chauffage, quoi. Alors que vraiment, on se les pèle. Est-ce que s'abonner tient au frais? Oui, s'abonner fait baisser la température de 1 degré. S'abonner à ma chaîne fait baisser la température de 1 degré. C'est prévu. C'est prévu comme ça, c'est dans les règles. C'est eux qui décident de la température du chauffage, du coup. Non, le chauffage central, il est allumé et éteint par décision du syndic de la copropriété, enfin du gestionnaire, quoi. Et nous, ensuite, dans les appartements, on a des réglages sur nos chauffages pour baisser. Le chauffage. Alors on peut pas monter plus haut que la chaleur de l'eau qui circule dans le système, par définition, mais on peut baisser si on a trop chaud. Ce qui est jamais le cas, hein. Enfin en ce qui me concerne. Après moi je suis un frileux. Merci Zéphaël pour ton sub, merci Ebur pour ton sub. Merci pour vos abonnements, pardon, les copains. Ça existe les Bretons frileux ou t'es nantais? T'es con. Perso, chez moi, on baisse le chauffage central. Ah ouais? Bon, bah, moi non. Pour ton chat, caresse-le avec un gant trempé, ou mieux, la main nue et pulvérise de l'eau sur le poil, le mieux, le mien en redemande. Alors, tu apprendras que malheureusement, mon chat est un chat craintif qui refuse que je l'approche. Donc, c'est un chat qui est chez moi depuis plus d'un an et je ne l'ai jamais touché physiquement. Jamais. Je peux pas. Elle ne s'approche pas à moins de 4 mètres de moi. Avec un pistolet à eau, tu vas pouvoir la choper. Mec, pour vraiment se faire détester définitivement du chat. Elle vient d'où? Elle vient d'une association. Je suis famille d'accueil pour ce chat qui m'a été remis par une association. Mais qui va. Donc là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour lui trouver une autre famille d'accueil. Parce que le problème, c'est qu'un chat craintif. Déjà, moi, j'y connais rien en chat craintif. Moi, je sais pas faire avec les chats craintifs. Il y a des gens qui savent faire. Moi, je sais pas faire. Et en plus de ça, je travaille à domicile. Ce qui est un peu chiant pour le petit chat. Parce que du coup, quand je suis physiquement présent dans l'appart, elle est cachée sous un meuble dans la cuisine. C'est seulement quand je dors ou quand je suis pas là qu'elle sort de sa cachette pour vivre, boire, manger, faire ses besoins, etc. Mais bon, par définition, vu que je travaille ici, je suis quand même très souvent là. Ce qui n'est pas fun pour elle. Donc on est en train d'essayer de lui trouver une solution, mais c'est pas facile. C'est un petit chat traumatisé. C'est pas particulièrement un petit chat traumatisé, mais c'est un petit chat qui a vécu la majorité de sa vie à l'état sauvage, semi-sauvage, loin des humains. Je réitère ma proposition de famille d'accueil. Si l'association a besoin, ils peuvent me contacter. Bah, envoie-moi un mail. Envoie-moi un mail sur mon adresse pro. On verra. J'ai déjà un abonné que je remercie d'ailleurs, qui m'a contacté la semaine dernière et on a échangé au téléphone parce que lui aussi est dans une assoce et on va peut-être essayer de trouver une solution. J'ai une autre abonnée avec qui je discute depuis longtemps, qui m'apporte des conseils parce qu'elle aussi, elle a été bénévole dans plusieurs associations. Et voilà. Donc merci du fond du cœur pour votre aide. Hein. C'est quand même super sympa de votre part. Et si vous êtes en Île-de-France et que vous savez y faire avec les chats craintifs et que vous êtes prêt à l'accueillir, on peut en discuter. Mais moi, en tout cas, je veux une solution pérenne pour ce chat. Parce que l'association, ils m'ont dit, ouais, si tu veux, on peut la mettre en cage. Je fais, bah non. Non, on va pas la mettre en cage. Elle va rester ici jusqu'à ce qu'on trouve mieux qu'une cage. Je peux pas dire qu'elle me dérange, par définition. Je peux pas dire qu'elle me fasse chier. C'est juste pour elle que c'est chiant. Est-ce qu'elle peut aller avec d'autres chats? Oui, s'ils sont compatibles en termes de virus, sachant que c'est elle, elle est FIV, comme beaucoup de chats, hein, tu me diras. Donc ça peut le faire, ça dépend, faut vérifier. Je repense à la clim. Tes convictions sont-elles plus fortes que ton confort? Bah, c'est tout le débat, hein. C'est tout le débat que j'ai avec moi-même chaque année. Chaque été, je me pose la question. FIV, pour ceux qui ne connaissent pas, FIV, c'est le VIH pour les félins. VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Le H vient de humain. Et le F de FIV veut dire félin. C'est le même virus. Feline Immunodeficience Virus. Je crois que c'est comme ça. C'est le sida. C'est le sida des chats. Voilà. C'est le sida du petit chat. Ça ne peut pas se transmettre d'humain à animal, ni d'animal à humain. Mais c'est le même virus. Donc voilà. Donc elle est porteuse. Elle est porteuse saine du virus. Et comme pour les humains, elle peut vivre longtemps comme ça. Hein. Elle peut vivre longtemps comme ça. Et puis elle peut malheureusement aussi déclencher la maladie. Auquel cas, malheureusement, de ce qu'on m'a dit, ça va très vite. Hein. C'est pas... Sida pour les chats, c'est assez radical. Hein. C'est répandu chez les chats. À ma connaissance, c'est assez répandu, oui. Les chats qui ont ce virus-là, c'est assez commun, oui. Surtout pour les chats qui ont vécu à l'extérieur. Elle est séropositive en gros. Ouais, en gros, elle est séropositive. Perso, j'ai installé un ventilo au plafond, ça coûte moins cher qu'une clim et ça marche super. Alors moi, c'est très drôle parce que au-dessus de ma tête, là, j'ai une ampoule. J'ai une ampoule qui marche, hein, que j'ai achetée. Que j'ai branché sur le système, je pourrais mettre un plafonnier et tout. Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Jamais. Ça fait plus d'un an que je suis dans cet appart. Et ça fait plus d'un an qu'en fait, ce truc-là reste éteint parce qu'en fait, bah. J'ai essayé de trouver le bon disjoncteur, je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de trouver le bon interrupteur, je ne l'ai pas trouvé non plus. Je sais que l'ampoule fonctionne, mais il n'y a pas d'électricité qui va jusqu'à l'ampoule et j'ai jamais trouvé la raison. Alors après, au demeurant, c'est pas une light dont j'ai véritablement besoin. Parce que moi, évidemment, là, je suis dans mon salon ici. Ma chambre est là, ma cuisine est là. Et la salle de bain est là. J'ai tout mon système d'éclairage là de mon setup de stream. Donc là, j'ai deux lights en face, enfin, des faces retournées qui éclairent le mur blanc devant moi pour faire une lumière indirecte. Et j'ai deux lights, deux panneaux LED là, qui m'éclairent, un blanc à droite, un jaune à gauche. C'est l'inverse. Et voilà, et du coup il y a de la lumière chez moi. Enfin genre vraiment ça éclaire bien, tu vois, j'ai de la lumière, c'est cool. Donc j'ai jamais eu besoin de cette lumière-là, mais du coup je trouve ça marrant parce que j'ai jamais su comment elle fonctionnait. Elle aime peut-être pas les adhérents UDI. Oh, elle aime surtout pas les blagues périmées depuis 4 ans. Sors-nous un miroir pour nous montrer. Non. J'ai pas de miroir. Les lights de stream en canicule. Bah non, c'est des panneaux LED. C'est des panneaux LED, ça ne génère pas de chaleur. Ah non, 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 j'ai pas des spots de lumière avec des ampoules comme à l'ancienne dans les théâtres, etc. Non, 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 ça, en stream, ça s'utilise plus, ça. J'ai commencé avec ça, avec des softbox, etc. Quand j'ai commencé le stream en 2015, il n'y avait pas encore de panneaux LED comme il y a aujourd'hui, aussi accessibles et tout. Donc on achetait des softbox sur Amazon et on streamait avec d'énormes softbox avec des lights dedans qui chauffaient un peu. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et maintenant c'est terminé, hein, c'est que des panneaux LED. Ça chauffe quand même les LED. Alors les LED en elles-mêmes ne chauffent pas ou pas beaucoup. C'est surtout le transformateur électrique du panneau LED qui lui peut chauffer, comme tous les transfos. L'alim de votre PC chauffe. L'alim d'une cam chauffe. L'alim de. Voilà, c'est l'alim en fait qui transforme. Donc c'est elle qui génère de la chaleur. Mais pas beaucoup. Encore une fois, pas beaucoup. C'est négligeable les chauffages de LED. Ouais. T'as essayé de mettre un ventilateur de plafond? Bah non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je mets un ventilateur de plafond, je saurais toujours pas comment l'allumer. Donc, je vais avoir un ventilateur éteint au-dessus de ma tronche. Après, c'est marrant, c'est aussi une question d'habitude et de culture. Moi, j'ai jamais eu de ventilateur au plafond chez moi. Jamais. J'ai jamais connu ça. Je sais que c'est très, 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 très fréquent en Amérique latine, par exemple. Aux États-Unis aussi, c'est fréquent. Peut-être dans certains pays du Sud, peut-être qu'en Espagne, peut-être qu'en Italie, ils ont l'habitude d'avoir ça. Je sais pas trop, mais moi, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Du coup, je sais même pas très bien quel effet ça fait. Je sais pas. C'est très américain, ça. Ouais. Donc bon, voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Moi, j'ai jamais eu de ventilo au plafond chez moi, ni chez personne. En fait, j'ai vu ça dans des restaurants, j'ai vu ça dans des endroits où je suis allé quand j'ai voyagé, bien sûr. Mais j'ai jamais eu l'habitude, en fait, d'en avoir. Ça remonte l'air frais du sol à hauteur. Ok. Très bien. Le ventilateur, il brasse de l'air de la pièce, c'est très agréable quand on dort. Ouais, c'est vrai, j'avais déjà dormi dans un hôtel comme ça où il y avait un ventilateur du plafond. Et il faisait super chaud, donc je l'avais laissé. Et c'est vrai que c'était agréable, ouais. Ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Hein. Mais non, non, je vais pas installer ça chez moi, non. Non. J'ai toujours peur qu'il finisse par tomber sur mon PC. Je pense pas qu'un ventilateur de plafond puisse vraiment te blesser sérieusement. Alors faut vraiment que tu le fasses tourner à pleine vitesse. Je pense qu'il peut te faire mal. Tu peux avoir un hématome, voire une coupure. Mais je suis pas sûr qu'un ventilateur de plafond puisse vraiment te faire très très mal. Non, mais c'est lourd. Ah ouais, ça par contre ça peut faire mal, oui. Effectivement. Salut, ton dernier stream ne sera pas en rediff YouTube. Eh bah si, pourquoi il le serait pas? Alors, on a des problèmes en ce moment avec les rediffs YouTube. Quand je dis on, c'est avec Pemph. Hop là. Qui gère mes différentes chaînes YouTube. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Bah non, il n'est pas encore en ligne. Et non, je disais qu'on a des problèmes parfois avec certains streams dont l'encodage plante et du coup on peut pas faire des uploads et du coup c'est mort, on peut pas le mettre. Donc ça arrive. Je sais pas si ce sera en ligne, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. C'est le temps de l'encodage, c'est le temps de l'upload. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas les streams les plus intéressants de ma chaîne qu'on fait en ce moment. C'est l'été, on se détend, on papote, c'est cool, moi j'aime bien. Mais vous ratez pas des informations capitales sur l'actualité politique. Est-ce que les best-of reviendront sur la chaîne principale? C'est possible. On est en train de voir ça pour la rentrée. On est en train de voir ça pour la rentrée. Je sais pas si on va reprendre le rythme des best-of qu'on avait avant ou si on va se diriger vers autre chose. Je veux pas vous annoncer de trucs maintenant. En tout cas, j'aime beaucoup votre contenu et même si je ne suis pas de votre camp politique, c'est plaisant de découvrir, suivre l'actualité. Merci à toi pour ton commentaire, c'est très gentil, tu es le bienvenu. C'est sympa, c'est cool. En tout cas, c'est très utilisé dans les années 90. Ma grand-mère aujourd'hui encore préfère les ventilateurs de plafond. D'accord, ok. Bon. Non, 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 mais encore une fois, j'en ai jamais vraiment eu, quoi. Un nouveau chef CAB a été nommé auprès de Bruno Le Maire aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Oui. On s'en branle. Si ça se trouve, c'est un chef CAB qui va durer 2 semaines. Hein. Je veux dire. Oh, c'est pas très important. Les nominations dans les cabinets, c'est pas très important. D'ailleurs, on a appris que beaucoup de membres de cabinet de ministres macronistes sont partis après la dissolution. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils sont pas cons. Je veux dire, ils ont flairé le truc, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette dissolution de merde, on va perdre. On sera plus au gouvernement, je préfère me barrer maintenant. Je vais pas attendre la débâcle pour me retrouver avec un CV où je suis resté jusqu'à la défaite. Bah non, tu te casses avant, quoi. Tu chopes un poste intéressant, tu négocies un truc ailleurs, et puis tu vas faire la suite de ta carrière ailleurs. Comment on fait pour nommer des gens quand on a démissionné? Bah, on est ministre démissionnaire, donc techniquement on est toujours ministre. Merci Chocolatier pour ton raid, pardon. Bienvenue à tous tes viewers. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Je m'appelle Jean, je parle d'actualité politique. D'habitude. Sauf quand le mercure dépasse une certaine température, où là je décide que nique sa mère. Ça embauche dans les ministères où les ministres sont démissionnaires? Oui, ça peut embaucher, oui. Oui, ça peut embaucher, bien sûr. D'ailleurs, ça peut être un bon plan de début de carrière. Quand t'es collaborateur de cabinet débutant, que t'as pas encore de CV, que t'as pas encore beaucoup de réseau, etc., ça peut être intéressant de choper un poste qui est laissé vacant à quelques mois d'une élection, par exemple. Tu sais par avance que c'est un CDD. Que ta chaise soit fraîche. Merci à toi. Ça peut être intéressant effectivement de choper un poste pour quelques mois en te disant en fait je m'en branle, l'important c'est pas ce que je vais faire dans ce poste-là, c'est les gens que je vais y rencontrer et c'est l'intitulé sur le CV que tu peux revendre après. Alors c'est toujours pareil, hein, je vous avais déjà expliqué, c'est plus facile de trouver des postes de cabinet quand tu es dans une formation politique ou quand tu es dans un camp politique qui gagne des élections plutôt que quand tu es avec ceux qui en perdent.
Moi, j'ai commencé ma carrière de collaborateur de cabinet dans des cabinets d'élus socialistes à une époque où le socialiste, où les socialistes étaient absolument partout au pouvoir. Vraiment, tu prends l'histoire de France, jamais un parti. Si, le RPR, ils avaient ça aussi. Mais bref, jamais le Parti socialiste n'avait été aussi puissant qu'en 2012. En 2012, le PS avait l'Élysée, avait le gouvernement, avait le Sénat, avait l'Assemblée nationale, avait l'écrasante majorité des conseils régionaux, une bonne moitié, un bon deux tiers des conseils départementaux, plus des grandes villes. Il y avait Paris, il y avait Lyon, il y avait Lille, voilà. Et plein de villes moyennes, etc. Genre vraiment, ça embauchait à balle. 22 régions sur 24, oui, c'est ça, c'était 22 régions sur 24, je voulais pas me tromper dans le chiffre. Donc voilà. Et j'avais des potes de promo qui étaient UMP à l'époque, c'est l'ancêtre des Républicains. Et c'était des meufs. Et elle galérait, quoi. Enfin, elle galérait. Non, elle galérait pas, parce qu'il y avait quand même des députés, il y avait quand même quelques mairies et tout. Mais c'était pas pareil, quoi. En termes d'embauche et de facilité de trouver du taf, c'était vraiment pas comparable. Est-ce que c'est plus dur de se lancer en politique maintenant? Ah mais ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui? Ça dépend dans quel camp t'es. Et ça dépend ce que tu veux faire. Comment on trouve du taf? C'est que du contact où il y a des offres publiques. Il y a peu d'offres publiques. Ça arrive, mais c'est assez rare. Ça se fait beaucoup au contact, à la recommandation et à la confiance. Moi, j'ai commencé ce métier, je connaissais personne. Vraiment, je ne connaissais personne. J'étais même pas militant politique, je ne venais même pas de l'UNEF. Alors que l'UNEF, ça sert aussi un peu à ça, hein, te fabriquer un carnet de contact, etc. Les mouvements de jeunesse, etc., ça sert à ça. Moi, j'ai débarqué là-dedans, je venais de l'associatif, donc j'avais quelques contacts, mais en fait, je connaissais très peu de monde. J'ai tout fait à la mano, hein. J'ai tout fait à la mano. Je suis allé rencontrer des gens, j'ai serré des mains, j'ai pris des cafés, j'ai fait des déj. À n'en plus finir. C'est bon le café en même temps. Ouais. Ouais. Non, c'est un truc de. C'est clairement un truc de contact. C'est clairement un fonctionnement par contact et par recommandation et par réputation. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un de. Si t'es bon dans ton taf, ça va se savoir. Si t'es mauvais dans ton taf, ça va se savoir aussi. Comment on a pu passer de gauche surpuissante à gauche en miettes en si peu de temps? Bah comme d'hab, l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir. Qui est sanctionné dans les urnes, par la déception des électeurs. La gauche est toute puissante en 81, elle est ratiboisée en 86. La gauche est pas dégueulasse en 88, elle est ratiboisée en 93. La gauche est au pouvoir en 97, elle est sanctionnée dans les urnes en 2002. Sévèrement. Je vous rappelle qu'en 2002, un électeur sur 10 votait à l'extrême gauche. J'ai bien dit extrême gauche, le communisme révolutionnaire. Un électeur sur 10 votait à l'extrême gauche. Quand tu étais de gauche et que tu étais insatisfait du gouvernement de droite, de Lionel Jospin, avec ses Jean-Luc Mélenchon, avec ses privatisations, avec tout ce qu'il a fait de mal, ce gouvernement, etc., bah tu votais Besancenot. Tu votais Arlette Laguiller. Un votant sur 10. Oui, c'est ce que j'ai dit, un électeur. Ah non, parce que électeur, ça veut dire inscrit sur liste électorale, donc du coup, on dit votant. Oui, t'as raison. Oui, non, en vrai, t'as raison. T'as raison. Un votant sur 10. Un bulletin dans l'urne sur 10 était un bulletin extrême gauche. Pourquoi il n'y a pas eu ce raisonnement avec Macron? Bah, si. Regarde Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Tu vas pas me dire qu'il est en train de gagner des élections là en ce moment, Macron. Il est plutôt sanctionné dans les urnes, Emmanuel Macron. Suis deg, j'avais 17 ans en 2007. Ah, t'as pas pu voter Ségolène Royal. Ça, c'est triste. T'as pas pu voter Ségo qui portait les espoirs de la gauche face à Sarkozy. On est forcément naze une fois arrivé au pouvoir. Ça dépend qui juge et sur quels critères. Y a pas de métrique officielle, il y a juste la sanction des urnes. Les électeurs disent ce qu'ils pensent du gouvernement dans les urnes, s'ils soutiennent ou s'ils soutiennent pas. Mais je vous confirme, pour l'avoir vécu de l'intérieur, gouverner, c'est souvent décevoir. Gouverner, c'est essayer de faire au mieux, mais pas y arriver tout le temps. Gouverner, c'est dur. Et c'est vrai que t'as plus l'occasion de décevoir les gens quand t'es au pouvoir que quand t'es dans l'opposition, parce que par définition, dans l'opposition, t'as pas le pouvoir, donc tu peux pas décevoir. T'es responsable de rien. Ah oui, c'est pas toi qui es responsable, c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont responsables de la situation, par définition. Et c'est très bien que ça le soit, hein. Donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faut. Enfin, je veux dire, c'est une donnée qu'il faut accepter, hein. Quand on fait de la politique, quand on cherche à obtenir le pouvoir, déjà, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas pour soi, c'est pas pour le plaisir d'avoir du pouvoir. J'adhère pas beaucoup, moi, à cette vision du truc comme quoi les politiques cherchent le pouvoir pour le pouvoir, etc. Par pur orgueil, par ego. Non. Non, les politiques, ils ont des convictions. Les politiques, ils veulent effectivement, sincèrement changer les choses. Dans un sens ou dans un autre, hein. Je suis pas en train de dire la gauche, la droite, le machin, etc. Je pense qu'ils veulent vraiment changer les choses. Et donc les politiques, ils essayent de choper le pouvoir pour effectivement être responsables, parce qu'ils veulent les responsabilités. Et ils sont prêts à en assumer les conséquences. Macron a des convictions MDR. Ah, Macron a des convictions. Macron a des convictions très fermes. Et je pense que c'est une erreur d'analyse que de les mépriser. Macron sait très bien ce qu'il fait. Macron fait ce qu'il veut. Et Macron veut ce qu'il fait. Les conservateurs, ils veulent pas ne pas changer les choses, justement. Bah, ils veulent. Bah si. Mais le conservatisme, c'est pas toujours la défense de l'ordre établi à l'instant T. Ça peut être un ordre établi fantasmé d'un temps plutôt passé. À part LFI qui est de gauche, personne, personne, personne. Voilà, LFI c'est la gauche. Personne d'autre n'est de gauche. On va dire ça. C'est plus simple. Les conservateurs veulent changer pour revenir en arrière. Ça dépend, ça c'est plutôt les réactionnaires, par définition, qui veulent revenir en arrière. C'est plutôt les réactionnaires. Non, mais les conservateurs n'ont pas que le conservatisme comme boussole. Les conservateurs, souvent, ont aussi des idéaux, ils sont portés par des idéaux de responsabilité individuelle, de mérite, de liberté notamment d'entreprendre. Ils souhaitent plus d'initiatives privées, moins de services publics, parce qu'ils y croient sincèrement qu'un service est mieux rendu quand il est rendu par un service privé en concurrence que par un service public bureaucratique. Donc tu vois, les conservateurs, ils ont des options politiques. Ils sont pas juste définis par leur conservatisme. C'est comme de dire que la gauche, elle est définie que par son progressisme. Bah non, il y a pas que, enfin oui, mais il y a pas que ça. C'est un peu plus large que ça. Ça se définit de manière un peu plus large. Quelles sont les convictions de Macron? Je ne m'y connais pas. Emmanuel Macron est un libéral. Emmanuel Macron est un libéral, il s'inscrit dans la tradition européenne du libéralisme, qui est d'ailleurs très européenne, ça fait partie du jeu, européenne dans le sens de la construction d'un marché commun qui va rassembler les peuples européens, c'est l'idée assez classique du traité de Maastricht, etc. Emmanuel Macron est un libéral d'un point de vue économique, Emmanuel Macron souhaite qu'il y ait davantage de, comment dire, de liberté d'action par les acteurs eux-mêmes. Que les gens choisissent, que les gens définissent, que les gens ne soient pas enfermés dans des statuts divers et variés. On se souvient de la réforme Macron 1, dans lequel il avait essayé, par exemple, de réformer les notaires. Il avait essayé de réformer les taxis. Parce que, typiquement, Macron, il soutient Uber par rapport aux taxis. Les taxis, c'est typiquement un truc que détestent les libéraux. Un espèce de système auto-organisé, quasi mafieux, dans lequel les mecs se font circuler des autorisations officielles qu'on appelle des licences de taxi, qu'ils achètent les uns les autres, et en fait le marché est réservé à une cote particulière. Un Macron, ouais, un libéral, lui, il va préférer un modèle à la Uber où tout le monde peut devenir chauffeur Uber. Tu prends ta bagnole, frère, vas-y, t'es chauffeur Uber. Il y a une idée de libéralisme là-dedans, il y a une idée d'auto-fonctionnement. D'autodétermination de ton propre statut, t'as pas besoin de demander à l'État une autorisation, tu deviens chauffeur Uber, etc. Tu traverses la rue. Ouais, le truc de tu traverses la rue, très très bon exemple, ça, Emmanuel Macron. Moi j'aime bien Emmanuel Macron parce que il dit ce qu'il pense. Mais il le dit pas au bon moment. C'est-à-dire qu'il fait des longs discours où il explique sa vision des choses, etc., très intéressante. On comprend d'ailleurs sa politique, où est-ce qu'il veut aller, le rétablissement des comptes publics, la diminution des charges et des impôts sur les acteurs, etc., avec le plein emploi à marche forcée d'ici à 2027. Ok, ça on a compris. Mais parfois il lâche des dingueries comme ça, quand il est avec un micro tendu, où il dit à un mec, mais vas-y, traverse la rue, je te trouve du boulot, moi. Ça, c'est très macronien, ça. Cette idée qu'en fait, il suffit que les acteurs se bougent le cul eux-mêmes pour qu'ils réalisent leur propre destinée et qu'ils aillent chercher les choses. Qu'en réalité, ce qui bloque le succès économique, la croissance, etc., c'est les acteurs eux-mêmes. Et c'est exactement sa réforme de l'assurance chômage. Enfin, ses réformes de l'assurance chômage, parce qu'il en a fait trois quand même, et bientôt une quatrième peut-être. Dans l'idée de, on va foutre des coups de pied au cul des chômeurs, ils vont se sortir les doigts et puis ils vont aller trouver du boulot parce que du boulot il y en a et de toute façon il ne revient qu'à eux d'aller le trouver ce boulot. Typiquement libéral. C'est typiquement libéral. C'est ni bien ni mal, c'est libéral. C'est un point de vue libéral. C'est de la faute des pauvres s'ils sont pauvres. Exactement. C'est de la faute des pauvres s'ils sont pauvres et charge à nous, l'État, la politique, les puissances publiques, de mettre les choses en place pour que les pauvres se sortent eux-mêmes de la pauvreté. Voilà. C'est ça l'idée profonde qui sous-tend le macronisme. L'idée de mérite, exactement, l'idée de mérite. On en revient à l'idée de mérite. Celui qui est méritant, celui qui travaille, celui qui se dépasse, celui qui se dépense, mérite plus que celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien étant entendu comme le chômeur oisif qui ne veut pas sortir de son canapé, etc. Peu cliché, mais c'est l'idée. Ça sonne très Thatcher, tout ça. Ah bah c'est normal que ça sonne Thatcher, parce que Thatcher était une libérale, une grande libérale, Thatcher. Thatcher, elle a privatisé le système, le ferroviaire britannique, typiquement sur des arguments de concurrence. En disant, le ferroviaire est complètement croulant sous une autorité publique incapable, c'est de la bureaucratie, c'est pas comme ça qu'on développe un réseau ferré. Il faut des compagnies privées qui investissent de l'argent, on va libéraliser tout ça, donc on va privatiser tout ça et puis ça marchera mieux. Bon, le résultat est mitigé, on va dire, sur le ferroviaire britannique. Emmanuel Macron est également quelqu'un d'autoritaire. Il n'y a pas que le libéralisme qui définit Emmanuel Macron. Il y a aussi une certaine forme d'autoritarisme, de rejet de la contestation et de la protestation. Il n'y a qu'à voir le faible intérêt qu'il accorde aux manifestants, au dialogue social. Parce que tu peux être libéral de plusieurs manières. Tu peux être social-libéral, tu peux être machin et tout. Emmanuel Macron, par exemple, il aime pas beaucoup les négociations conventionnelles entre les syndicats. Le dialogue social, c'est pas son truc. Il en a globalement rien à branler des syndicats. Ce qui n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple. Nicolas Sarkozy veillait à maintenir un dialogue social qui pouvait éventuellement donner naissance à des conventions, des trucs comme ça, etc. Bon, ça marchait pas toujours, ça marchait même rarement, mais il y avait quand même une volonté chez Macron de faire fonctionner le dialogue social et de faire confiance au dialogue social entre les partenaires sociaux, etc. Macron, pas du tout. Macron s'en bat les couilles. Pour lui, les syndicats, ce sont des conservateurs par nature. Des gens qui veulent rien faire évoluer. Il avait écrit dans son livre Révolution, je ne sais pas si vous l'avez lu en 2016, le livre Révolution d'Emmanuel Macron, il écrivait justement à quel point il n'aimait pas ces rentes politiques et ces rentes de posture et de situation qu'avaient un certain nombre de responsables syndicaux qui empêchaient les travailleurs eux-mêmes de s'émanciper, de travailler davantage, etc. C'est un certain point de vue sur le travail, hein. C'est pas un point de vue que je partage, mais c'est un point de vue. Il confond syndicat et corporation, notre cher président. En tout cas, ouais, il a tendance à voir les mauvais côtés du corporatisme dans le syndicalisme. Et on en revient sur ce que je disais sur les notaires. Typiquement, les notaires, ils avaient fait des manifs dans Paris pour protester contre la réforme de libéralisation d'un certain nombre d'actes notariés qui avaient vocation à pouvoir être faits par des avocats. La corporation des notaires s'est mobilisée et Emmanuel Macron a retiré toute une partie de son projet de loi qui concernait les notaires. Pourquoi il est classé au centre? Pourquoi Emmanuel Macron est classé au centre? Parce que le centre en France, ça existe. Le centrisme est une idée politique en France qui a une histoire, qui s'inscrit dans une histoire particulière. Et Emmanuel Macron s'inscrit dans la filiation de cette histoire, celle du centre. Le libéralisme, le caractère européen, le républicanisme, dans une acception universaliste, etc. Bon, très bien. Emmanuel Macron est complètement l'enfant de cette pensée-là. Et par ailleurs, Emmanuel Macron, en 2016, a fait une proposition politique qu'il a appelée le dépassement. C'est très macronien ça. Il a proposé le dépassement du clivage gauche-droite. L'idée de créer un mouvement politique qui va rassembler des hommes de droite, de gauche, des hommes et des femmes, qui vont se parler plutôt que se bouder, essayer de trouver des solutions ensemble plutôt que de se faire la guerre. Et c'est ça qui a donné naissance au mouvement En Marche. Cette idée de dépassement, qui a effectivement séduit déjà des responsables politiques, parce qu'il y a un paquet de gens de droite qui y sont venus, un paquet de gens de gauche qui y sont venus, qui ont adhéré à cette idée-là. Et ça a aussi fonctionné d'un point de vue électoral. Parce que Emmanuel Macron, en 2016, proposait une offre nouvelle qui faisait fi des vieilles formations politiques, qui était très critique des vieilles formations politiques. Le vieux PS, les vieux les Républicains, là, complètement engoncés dans leur tradition politique dans laquelle ils ne veulent pas sortir, incapables de travailler ensemble, etc. Ça, c'était un discours qui a plu à beaucoup de Français. C'est pour ça que ça a été analysé dès 2017. En réalité, je me souviens, il y avait des très bons articles qui étaient écrits là-dessus, qui disaient que Emmanuel Macron était une forme de dégagisme. C'était pas le seul à être dégagiste. Il y a plusieurs manières d'être dégagiste. Mais Emmanuel Macron était une forme de dégagisme. Si vous n'aimez pas ce vieux système politique croulant et trop chiant, vous pouvez voter Macron. Il est une forme de nouveauté. Il apporte une fraîcheur par sa proposition de dépassement. Et ça a fonctionné auprès de beaucoup d'électeurs. C'est pas si faux. Ah, moi, je vous dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. D'ailleurs, ça n'appartient pas au domaine du vrai ou du faux. On n'est pas dans le domaine de la connaissance, là. On est dans le domaine de l'adhésion. Donc, tu peux y adhérer ou pas. Tu peux considérer que c'est effectivement une bonne grille d'analyse à laquelle toi tu te sens proche. Ou tu peux aussi dire non, bah, c'est gentil, mais très peu pour moi, j'adhère pas, j'achète pas, je ne contracte pas, c'est pas mon truc. Et DSK, il est plutôt quoi? Alors, DSK n'est plus rien du tout. Hein. Je vous rappelle que DSK a quitté la politique depuis 2011. Voilà. Dominique Strauss-Kahn, il était au Parti Socialiste, il est économiste, professeur d'économie à l'Université Paris 10. Dominique Strauss-Kahn, maire de Sarcelles. Dominique Strauss-Kahn, lui, il était social-libéral. Donc, il représentait, on va dire, l'aile droite du Parti socialiste. Donc, plutôt les libéraux. Là où était Emmanuel Macron, d'ailleurs. Un social-libéralisme un peu... Alors, tiens, la star historique de cette aile-là du Parti socialiste, c'est l'ancien Premier ministre britannique du Labour qui a vraiment mis en place ce truc-là. Tony Blair, merci les amis, merci beaucoup, Tony Blair. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai trop chaud. Tony Blair, ouais. Tony Blair, c'était la star de l'aile droite du Parti socialiste, hein. Les Gérard Collomb, les Dominique Strauss-Kahn, les... ouais, si, Moscovici. Mais je pensais pas à lui, là. Manuel Valls, évidemment. Donc ouais, les Strauss-Kahniens, c'était plutôt ça. C'est assez propre, c'est assez proche du macronisme. Hein. On va pas se mentir, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'Emmanuel Macron vient du PS, qu'il vient de ce PS-là. Je vous rappelle que le PS c'est grand. Hein. Il y a, enfin, voilà. Il y a Manuel Valls, il y a Jean-Luc Mélenchon au sein du même parti pendant plusieurs décennies. Le Parti socialiste est très grand à l'époque. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de s'engueuler le Parti socialiste. Visiblement, la ligne d'Olivier Faure fait grincer des dents en interne au PS où ils sont en train de s'engueuler sur la strate. Ce qui n'est pas étonnant. Cambadélis, merci. Je cherchais Cambadélis tout à l'heure. Qui était le porte-parole de Dominique Strauss-Kahn. Le PS qui s'engueule, voilà une forme originelle. Ah bah ouais. Donc vous savez que le Parti socialiste est un parti avec une organisation démocratique, c'est-à-dire que les adhérents du Parti socialiste votent pour élire leurs représentants au sein du Parti socialiste qui vont définir la ligne du Parti socialiste. Et la direction du Parti socialiste, Olivier Faure, est élue par le Conseil national du Parti socialiste, qui est le parlement du parti dans lequel sont représentés les différents courants du Parti socialiste. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et donc actuellement, effectivement, mais c'est pas étonnant, le Parti socialiste s'interroge sur le Parti socialiste s'interroge sur la stratégie à adopter dans la période qu'on vit actuellement. Est-ce qu'il faut rester sur une ligne de rupture nette avec les insoumis et refuser toute forme de compromis avec les macronistes, ou est-ce qu'il faut chercher des compromis avec les macronistes pour arracher le maximum de progrès possible? Donc ils en sont là. Ils en sont là, ils en sont à cette discussion-là, et puis on verra si ça change à la rentrée, mais on verra. C'est pour ça que je vous invite à tendre une oreille au discours que vous entendrez à l'université d'été du Parti Socialiste à la fin du mois d'août. C'est à Blois qu'ils se réunissent, encore une fois. L'année dernière, c'était à Blois. Cette année, je sais pas s'ils ont changé ou pas. Une partie du PS a envie de partir à la soupe. Alors c'est une manière de voir les choses, effectivement, de dire qu'ils vont se compromettre dans une alliance hypothétique hein, avec les macronistes. Eux te répondront que c'est pas une question de soupe ou pas, c'est une question d'arracher le maximum d'avancées qu'on peut arracher. Compte tenu de la structuration politique de l'Assemblée. Parce qu'on va pas se mentir, si vous voulez faire progresser quoi que ce soit dans ce pays, vous avez besoin d'obtenir des voix de la part des macronistes. Ça fait chier, ça donne pas envie, mais y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il s'appelle Ario, le parlementarisme? Oui, qu'est-ce qu'il s'appelle Ario, un régime parlementaire? Ils peuvent arracher quoi comme progrès, vu que Macron passe son temps à pencher à droite? Bah, du coup, des trucs moins à droite. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, compte tenu de la configuration politique de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir, comme il l'avait avant. Il peut plus se permettre d'imposer des trucs. C'est terminé, ça. Là, on va rentrer dans une phase où il va nécessairement falloir des compromis. Alors, soit Emmanuel Macron a des compromis avec les Républicains, auquel cas il mènera une politique encore plus à droite, parce que les Républicains sont encore plus à droite avec Laurent Wauquiez, etc. Très bien. Il aura sa majorité relative pour le faire adopter, etc. Mais il y a des gens, notamment au Parti Socialiste, qui veulent éviter ça, en se disant, mais en fait, c'est pas souhaitable que Macron aille faire ami-ami avec la droite. On préférait que Macron vienne faire ami-ami avec nous, pour nous arracher des trucs, l'empêcher de mener une politique de droite. Par contre, je ne comprends pas la strate de Macron de refuser le Premier ministre NFP. C'est le meilleur moyen pour les exposer et mettre dans le bourbier sa gouverne, car gouverner, c'est déplaire. Je comprends ce que tu veux dire, ça peut effectivement être une stratégie. Et moi, je pense que c'est la stratégie que devrait suivre Emmanuel Macron. Mais après, je suis biaisé, c'est normal. C'est de nommer Lucie Castet à Matignon et de laisser Lucie Castet se démerder. Et ça veut dire quoi, se démerder? Ça veut dire se démerder pour trouver des voix chez les macronistes, parce qu'elle en aura besoin, Lucie Castet. Elle aura besoin de voix de macroniste. Donc, bah, démerde-toi, Lucie, vas-y, t'es première ministre du pays. Ciao. Allez, va négocier, va discuter, va proposer des trucs, etc., machin. Vas-y. C'est ton boulot. Essaye de les convaincre. Je comprends qu'il ne fasse pas ça en vrai. Bah ouais, parce qu'il n'en a pas envie. En a-t-il le choix? Pour l'instant, en l'état actuel des choses, on constate qu'il y a davantage de négociations, semble-t-il, avec les Républicains, du côté des macronistes. Laurent Wauquiez a publié un pacte de législature dans lequel il met ses priorités. Gabriel Attal a publié avant-hier ou hier, je ne sais plus, un pacte pour les Français, dans lequel il met ses priorités. Il faut que je lise encore les deux documents et que je les compare, etc., que je fasse tout ce travail-là, mais je ferai ça pendant mes vacances pour vérifier quelles sont les possibilités de hypothétiques d'accord. Et Lucie Castet a annoncé, vous l'avez entendu, Lucie Castet a annoncé que elle négocierait, elle trouverait des compromis avec les macronistes. Ce qui est ironique parce que c'est précisément la raison pour laquelle la France Insoumise n'a pas voulu de Laurence Tubiana. Mais l'erreur de Laurence Tubiana, ça a été de le dire avant. Du coup, elle s'est faite squeezer. Lucie Castet, elle a attendu d'être nommée candidate première ministre pour dire dans la presse, ah oui, au fait, je ferai des négociations avec les macronistes, ouais. Ça pour ça. Non, mais comme quoi les insoumis savent faire des compromis. Ça, pareil, on est encore dans le cliché, les insoumis, c'est une bande de radicaux assoiffés de sang, incapables de faire des compromis, c'est faux. Les insoumis font tout le temps des compromis. Sur plein de trucs. Ils ont fait des compromis avec les macronistes sur l'IVG dans la Constitution. Ils ont fait des compromis avec le PS pour créer la NUPES et le Nouveau Front Populaire. Et ils viennent de refaire un compromis en acceptant Lucie Castet. Donc bon, la radicalité chez les insoumis, c'est pas non plus. Je sais qu'il faut pas dire ça, hein. Il faut dire l'inverse. Il faut dire si, si, ils sont sur un programme de rupture et tout ça, machin. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils fassent des compromis. Et proposer la première place aux écolos, aux européennes. Ouais, t'as raison. Oui, t'as raison, j'avais oublié ça. Ils en font car ils sont obligés, sinon ils n'ont aucun pouvoir. Exactement! Exactement. On fait rarement des compromis pour le plaisir, on le fait souvent par nécessité. Les insoumis ont besoin des socialistes pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas pour le plaisir qu'ils font des alliances. C'est parce qu'ils en ont mutuellement besoin. Les socialistes aussi ont besoin des insoumis pour qu'ils présentent pas de candidats dans leur circonscription pour pouvoir se faire élire. T'en penses quoi de Lucie Castet? J'en pense pas grand-chose. Non, j'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est un bon choix pour le NFP. Et en même temps, ça montre la faiblesse aussi de Lucie Castet, parce qu'elle est, elle est une inconnue, elle n'est issue d'aucun des partis. Enfin, tu sens que le NFP a eu besoin de se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun. En allant chercher quelqu'un de globalement inconnu au bataillon, dont je doute qu'elle ait les coups des franches. Enfin, tu sens que c'est encore les chefs de parti qui ont la main, quoi. Elle n'est pas une candidate naturelle qui s'impose aux yeux de tous et tout. Mais bon, dont acte, hein, c'est pas grave. Elle a été choisie juste pour avoir un nom. Oui, non, mais c'est très bien. On sait pourquoi Huguette Bello a été refusée par le PS, parce qu'elle était trop proche des Insoumis. C'est marrant, quand le plan est galère, on va toujours chercher une femme. Oh non, tu peux pas dire ça. Ils avaient proposé Huguette Bello et Laurence Tubiana. Ils ont proposé que des meufs. Faut leur accorder ça. Le NFP a proposé que des meufs. Dont acte. Dont acte, ça s'écrit DONT plus loin acte, ACTE, et ça veut dire d'accord. Ça veut dire j'accepte l'état de fait. Ainsi soit-il. Oui, voilà. Dont acte, ça veut dire je note. Oui, je prends acte. Oui, c'est ça. Je prends acte, je note, j'accepte, J'avais l'impression que les insoumis ne faisaient aucune concession jusqu'à la fin. Genre, ils étaient forcément quelqu'un d'insoumis ou de proche des insoumis ou rien. Le PS a aussi été de mauvaise foi par moment. Mais moins, j'ai l'impression, il n'y a que moi qui pense. Ah, je sais pas. Non, non, je vois pas les choses comme ça. Mais je note encore une fois que les insoumis ont refusé une technocrate trop proche du PS. Qui voulaient faire des compromis avec les macronistes. Puis ils ont fini par accepter une technocrate proche du PS qui va faire des compromis avec les macronistes. Ok, d'accord. Encore une fois, on ne peut pas dire que les insoumis sont incapables de faire de transiger, sont incapables de faire des compromis. Ils viennent d'en faire un gros là, quand même. Elle a dit qu'elle ferait des compromis. Oui, elle l'a dit après avoir été nommée. Enfin, avoir été désigné. Elle a dit compromis sur des votes de texte, pas sur les coalitions. Oui, bien sûr. Ah non, mais il n'est pas question de faire coalition avec les macronistes. Il est question d'avoir un gouvernement minoritaire, qui va donc négocier texte par texte des compromis avec les macronistes. Et les macronistes, ils sont pas débiles, hein. Ils vont jouer leur rôle. Ils vont faire monter les enchères. Ils vont dire, admettons que Lucie Castel soit nommée première ministre, là, par Emmanuel Macron. Bon, très bien. Je vous rappelle qu'il y a le budget qui est en négociation à l'automne. Bah, les macronistes, ils vont aborder le budget en disant, très bien, vous voulez qu'on vote votre budget, la gauche? Très bien. Alors vous devez proposer un budget qui n'augmente pas la pression fiscale sur les Français. Démerdez-vous. Trouvez des marges de manœuvre. On ne votera un budget que s'il respecte la règle des 4% de déficit. Budget par 49,3, ça marche, bien sûr. Bien sûr. Donc évidemment, là, ce que je viens de dire comme exemple, c'est une posture de début de négociation. C'est une posture de début de négo. Par exemple, donc, les macronistes diront, voilà, nous ne voterons un budget que si c'est un budget qui n'augmente pas les impôts des Français. Pardon, le NFP va dire, très bien, on entend votre point. Et si on augmente, par exemple, l'impôt sur la fortune des plus grandes fortunes? Est-ce que vous considérez que ça rentre dans les Français? On peut par exemple ne pas augmenter les impôts sur les classes moyennes, on peut ne pas augmenter les impôts sur les PME, on peut ne pas inventer. Enfin bref, on peut négocier, on peut discuter. Mais par exemple, si on propose une taxation exceptionnelle des patrimoines les plus importants, et si on propose une taxation exceptionnelle des bénéfices les plus importants sur certaines catégories d'entreprises, et pour certaines tailles d'entreprises, voilà, donc vous voyez, c'est une négo. On est en négo. Les macronistes vont venir en disant, bon, très bien, on a entendu votre point. Nous, on n'est pas totalement fermés à une taxation des plus grandes fortunes. En revanche, on est sensible au fait que les grandes fortunes continuent à investir en France et donc ne quittent pas le pays. Donc, ok pour un ISF, mais pas non plus un truc confiscatoire qui ferait partir toutes les grandes fortunes, ce qui serait dommageable pour l'économie, machin, machin, machin. Vous voyez, c'est ce type de négo-là, en fait. Pareil, tu peux aussi négocier sur des délais. Par exemple, tu dis, ouais, on veut créer un ISF, machin, sur les grandes fortunes et tout. Les macronistes vont pouvoir dire, ok, mais nous, on veut que cette taxation n'entre en vigueur que dans un an, pas tout de suite. Alors, c'est pas le bon exemple, parce que pour le coup, sur les grandes fortunes, on s'en branle un peu, c'est pas très important, mais je pensais plutôt aux PME, par exemple. Genre, vous voulez augmenter le SMIC, très bien. Par contre, nous, on veut que ça n'ait pas d'impact sur la capacité des PME à embaucher. Donc, on vous demande de décaler d'un an l'entrée en vigueur de la décision. Ou alors de le faire entrer de manière progressive. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? C'est un vrai argument que les grandes fortunes partent du pays ou c'est juste une posture démagogique? C'est un argument avec lequel tu n'es pas d'accord. Quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, ce n'est pas nécessairement de la bassesse, de la médiocrité ou de la démagogie. Ça peut juste être que tu n'es pas d'accord. On va rentrer dans la censure en boucle. Non, 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 parce que regarde ce que je suis en train de te montrer là comme exemple un peu virtuel. C'est une négociation. C'est-à-dire que les macronistes peuvent dire nous, on veut pas bloquer le pays, on est prêt à laisser la gauche gouverner. En revanche, on sera attentif à un certain nombre de choses. Et si ces choses-là ne sont pas respectées, on censurera le gouvernement parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on considère que la gauche fait plus de mal que de bien, etc. Donc, ça laisse un délai à la gauche qui va donc pouvoir gouverner, mais par contre, il y aura en permanence une négo avec les macronistes qui vont dire ça, on est d'accord, mais on veut pas que ça impacte ça. Ça, on veut bien, à condition que vous mettiez en place un dispositif qui permet d'éviter ça. Ça, on veut pas, c'est hors de question, on votera jamais ça, donc vous serez tout seul. Négocier avec LFI, ça va être une vaste blague. Ah non, on vient d'expliquer qu'LFI, ils font des compromis. LFI, ils savent faire des compromis. Ils le chantent pas sur tous les toits, certes, mais LFI fait des compromis. Ils savent le faire, hein, c'est pas. Quand ils en ont besoin, ils savent le faire. Bon. Des compromis sur le programme? Mais évidemment, des compromis sur le programme. Je vous rappelle que le programme du nouveau Front populaire, il a été négocié entre les socialistes et les insoumis. Aucun des deux partis ne s'est rallié à l'autre, hein. Ils se sont mis d'accord. Ben voilà. C'est le programme de la France insoumise, le NFP. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. C'est factuellement faux. Mais si tu veux le croire, tu peux. Mais c'est en fait non. C'est un programme partagé entre les socialistes et les insoumis. Quelle chance de nomination de Castex d'après toi? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est pas énorme. Je sens pas Emmanuel Macron partant pour nommer Lucie Castex. J'ai noté également la difficulté pour Sacha Houlié à constituer un groupe de gauche au sein de la Macronie qui aurait pu être un allié potentiel du NFP. Le problème, c'est qu'un groupe de gauche au sein de la Macronie, il aurait fallu qu'il y ait 89 députés. Je crois que c'est 90 députés. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, en vrai, c'est chaud. Macron est littéralement en plein coup d'État, on s'en fout de Castex. Comment ça, Macron est en plein coup d'État? Mélenchon prend trop de poids dans le NFP, c'est pour ça que personne n'arrive à s'entendre. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, ils arrivent à s'entendre. Encore une fois, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on vit pas dans la même réalité politique. Ils arrivent à s'entendre. J'ai pas l'impression que Mélenchon soit un blocage absolu. Et est-ce qu'il a trop de poids au sein du NFP? Non, je pense pas. Je pense pas. Encore une fois, je vous rappelle que le NFP par rapport à la NUPES, c'est moins d'insoumis, plus de socialistes. Ouais, je veux dire, on peut insulter les insoumis de tout ce qu'on veut, mais là, enfin, le parti qui est en dynamique au sein du NFP, c'est le PS. LFI, ils sont en stagnation. Le PCF et les écolos, ils sont en léger recul. Les insoumis sont diabolisés, tu n'y peux rien, c'est acquis. Oui, non, mais je sais bien, je sais bien, oui, je sais bien qu'il y a une stratégie d'ailleurs de la diabolisation de la France insoumise à laquelle jouent beaucoup de camps politiques qui veulent absolument rendre intolérables les idées de gauche. Et oui, je suis d'accord avec toi. Bah, il va falloir une dédiabolisation de la gauche, hein. Ça va être obligatoire. Dont le PS qui participe à cette diabolisation d'ailleurs. Alors la direction du PS non. Certains membres du PS oui. Encore une fois, c'est grand le PS, hein. Il y a du monde dedans. Après. LFI pourrait demander des cours du soir à Marine Le Pen. T'es con. Non, je sais pas. Attends, de quoi on parlait? On parlait de la diabolisation des insoumis. Qui s'inscrit malheureusement hein, dans un espace culturel et médiatique qui diabolise l'antiracisme. Enfin, on en est là. Hein, on arrive à un moment où, en fait, c'est devenu intolérable d'être à SOS Racisme. Parfaitement tolérable d'être au Rassemblement national. Au contraire, c'est très important de les inviter, de leur donner la parole, etc. C'est très très important. L'extrême droite, il faut la comprendre, il faut l'écouter, c'est important, c'est des gens qui souffrent et tout. Ok, d'accord. Par contre, les antiracistes, eux, ils sont... Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu aussi peu d'antiracistes sur les plateaux, quoi. C'est devenu intolérable d'être antiraciste. Enfin, c'est... C'est faire du clientélisme musulman que de dire que les musulmans sont discriminés. C'est être antisémite que de dire que les Palestiniens sont opprimés. Enfin, c'est... on est à un niveau fou. Et je dis ça avec d'autant plus de facilité que j'ai connu, moi, les années Chirac. J'ai connu les années Chirac. Avec un gouvernement de droite qui revendiquait un antiracisme, qui mettait en place des politiques mémorielles sur l'esclavage, qui... À l'époque, être antiraciste, c'était même pas un camp politique, c'était une espèce de banalité. Genre, c'était normal, tu vois. Vraiment, hein. Les Chiraciens étaient antiracistes, oui, bon, d'accord. La gauche était antiraciste, oui, bon, d'accord. C'était une espèce d'évidence. Ne pas inviter l'extrême droite sur un plateau télé ou radio, c'était une banalité. Genre, on n'en parlait même pas, tu vois. C'était. Oui, évidemment. On va pas inviter l'extrême droite. Enfin, c'était absurde. On avait Ruquier à la télé le soir. On avait. Il y avait Zemmour chez Ruquier, ouais, il y avait Zemmour chez Ruquier, mais Zemmour au début, il n'était pas comme il est aujourd'hui, hein. Rappelez-vous de Zemmour, les tout premières télés de Zemmour quand il était chez Ruquier, etc. Avant même Zemmour et Nolo, etc. Zemmour, c'était un journaliste du Figaro, de droite un peu molle, pas très impressionnant, qui parlait assez bien d'ailleurs. Il était un peu mondain, il était un peu... Voilà, il était très différent. Il avait des arguments et tout, mais il n'était pas du tout l'espèce de taré nazi qu'il est devenu aujourd'hui, mais fou allié. C'était... Ouais, il était réac, pas facho. Ouais, il était réac gentiment, il était une espèce de... Mais c'était réac culturel, tu vois. C'était un peu le Figaro de ces années-là, quoi. C'est une droite pas méchante, voilà, gentille comme tout, qui a des trucs à dire quand même sur la gauche et tout, mais qui fondamentalement n'est pas ce qui est devenu Reconquête, quoi. Reconquête qui est un parti fasciste, j'en ai vraiment fascisant. Mais le mec a glissé d'une force. C'était tonton bourré à Noël. Ouais. Non, c'est incroyable. La pente est à droite. Ouais, carrément. Glissade de Dieudonné. Ouais, on a vu aussi Dieudonné partir en couille, ouais. Ouais. Non, mais enfin bref, je sais plus pourquoi on disait ça. Oui, on parlait de la criminalisation. La diabolisation des idées de gauche, d'une manière générale. Ce qui est triste d'un certain point de vue et ce qui est dangereux d'un autre point de vue, mais ce qui place la gauche au pied du mur et est forcée de s'interroger sur sa stratégie et sa destinée, quoi. Quelle stratégie pour la gauche? Et quel but? Quel objectif? Pourquoi personne ne souhaite lancer la destitution du président? Parce qu'on ne destitue pas un président parce qu'on ne l'aime pas. On destitue un président pour des raisons très précises prévues par la Constitution qui relèvent, d'un caractère délictuel, voire criminel. La destitution n'est pas une arme politique qui sert à se débarrasser d'un président avec lequel on a des désaccords. Il y a un parlement pour ça. destitution parce qu'il nomme pas de Premier ministre. Il a annoncé qu'il nommerait un Premier ministre plus tard. Donc on attendra le plus tard. Mais la question de l'identité du Premier ministre relève davantage de l'Assemblée nationale que du président de la République. C'est ce que j'essaie de dire, c'est un peu charge aux députés de se mettre d'accord. Et alors ils pourront imposer au président de la République un Premier ministre. On va passer une cohabitation. Bon, visiblement, les députés n'ont pas l'air chaud, 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 chaud pour négocier les uns avec les autres. En tout cas, pas tous. C'est Macron qui bloque. Non, c'est l'Assemblée nationale qui est bloquée. Macron, il bloque pas l'Assemblée nationale. Macron, il constate, comme vous et moi, que l'Assemblée nationale est tripartitionnée entre des blocs qui ne souhaitent pas négocier les uns avec les autres. Pas lui en vouloir de le d'essayer de laisser du temps à la négociation. Il nous impose bien une présidente de l'Assemblée nationale. Non, Emmanuel Macron n'impose pas Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a été élu avec des petits bulletins dans des grandes urnes par les députés. Macron n'a rien à voir avec ça. Au demeurant, je vous rappelle que Macron ne s'entend pas très bien avec Yaël Braun-Pivet, que c'est pas sa copine. Et que s'il avait fallu choisir, il aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais ça ne relève pas de sa responsabilité. Je confirme, on a assisté à son élection lors d'un stream très long. Ah ouais, on s'est fait chier. En vrai, c'était marrant. Moi, j'ai bien aimé. Et préparez-vous à en avoir d'autres, hein, des streams comme ça. Non, 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 Macron, il nomme un Premier ministre à l'Assemblée de censurer si elle est en désaccord. Ça ne relève pas du président de temporiser comme ça. Si, 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 ça relève du président de temporiser comme ça, parce qu'il a le droit de prendre le temps de faire aboutir des négociations pour trouver un nom de Premier ministre qui ne sera pas censuré, justement. Le principe de la censure de l'Assemblée nationale, c'est qu'on ne cherche pas à la speedrunner. Donc non, non, Macron est dans son droit. Macron est complètement dans son droit. La rentrée des députés, c'est quand? Le 1er octobre. C'est le jour de mon anniversaire. J'espère que vous serez là. Hein. Prendre le temps, c'est combien de temps exactement? C'est un temps qui peut être indéfini, mais c'est un temps qui peut être raccourci par une assemblée nationale. L'assemblée peut raccourcir, hein, très rapidement, si telle est sa volonté. Les ministres peuvent être démissionnaires combien de temps max? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Le gouvernement démissionnaire ne peut pas être censuré. Non, le gouvernement démissionnaire ne peut pas être censuré. En échange de quoi il ne peut rien faire. De politique, je veux dire. Il peut expédier les affaires courantes en prenant des décrets de simple administration. Je comprends pas ce que devrait faire l'Assemblée pour le Premier ministre. Trouver un compromis. Trouver un compromis. Il y a plusieurs niveaux de l'Europe. que Macron coopère clairement avec cette politique. Fait chaud en effet. Ouais, il fait chaud, hein. Moi, ça a pas baissé la température depuis tout à l'heure, hein. Il me reste du café ou pas? Non. Il reste juste à descendre dans la rue, pas plus. Ça peut être utile, oui. Ça peut être utile, un large mouvement social d'ampleur qui appelle à la nomination d'un Premier ministre, ça peut aider à la nomination de ce Premier ministre. C'est un rapport de force, hein. Macron est connu pour écouter les manifs. Ah bah non. Macron est connu pour ne pas écouter les manifs quand il a un gouvernement majoritaire. Quand il a un gouvernement majoritaire. Au demeurant, quand la gauche est au pouvoir, vous croyez qu'elle écoute les manifs? La manif pour tous, là. Ils ont obtenu quoi? En même temps, c'est ce qu'ils méritaient. Mais c'était des manifs monstrueuses de plus d'un million de personnes quand même dans les rues, c'est quand même pas rien. Quand même, la droite, quand elle se mobilise, elle sait faire. On avait vu ça avec De Vaquet, on avait vu ça avec plusieurs réformes. Donc voilà, quand t'as une majorité, je dis pas que t'écoutes pas la rue. Je dis juste que tu peux te permettre de pas l'écouter. Savent se mobiliser pour les causes importantes. Ah bah la droite, en tout cas la droite quand ils se mobilisent, ça rigole pas, oui. C'est rare mais ça rigole pas. On l'avait vu avec la manif pour tous, on l'avait vu avec la loi de Vaquet, sur l'école privée. En gros, la gauche au pouvoir voulait quasiment nationaliser les écoles privées. C'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. Et la droite était descendue dans les rues. Non, Savary, Savary, Savary. C'est la loi Savary, t'as raison, Isma. Merci, heureusement que t'es là. Non, De Vaquet, c'était une mobilisation étudiante de gauche. Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, mais attends, parce que De Vaquet, il y a machin qui a manifesté et tout, ça, je trouve ça bizarre. C'est la loi Savary. La loi Savary sur l'école privée. Et donc la droite a défendu la liberté d'enseignement et ils ont obtenu le recul du gouvernement, la démission du ministre, etc. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme grande mobilisation de la droite? Alors, il y avait les manifs de jeunes des années 90 pour soutenir Chirac, 93-94. Il y avait quand même la loi en 68, en juin 68, ou en mai, je ne sais plus, de soutien au général de Gaulle, où là aussi on était sur bien le million de manifestants. Le Trocadéro de Fillon en 2007, ouais, c'était une grosse mobilisation, ça. Hein. Le discours du Trocadéro de Fillon en 2007 pour la présidentielle, c'était pas dégueulasse, c'était pas négligeable hein, comme mobilisation. La Manif pour tous, on en a parlé, bien sûr, en 2013. Grosse, 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 grosse mobilisation de la droite. Trocadéro, il y avait 50 000 personnes, c'est rien. Pour la droite, c'est énorme. Pour la droite, c'est énorme. 2012, Fillon, non, en 2012, c'était Sarkozy qui était candidat. La réforme de l'école privée sous Mitterrand, mais ça date. On en a parlé, c'est la loi Savary. Les gilets jaunes. Ah! Les gilets jaunes étaient-ils de droite? Ah! Oula! Pouf! Compliqué. Tout soune un peu. C'est pas encore digéré tout ça. Non, mais je remarque que les gilets jaunes ont réussi probablement l'un de leurs paris, c'est de rester indéfinissables politiquement. Ce qui était une de leurs volontés partagées, hein. De ne pas s'inscrire dans un camp politique plutôt qu'un autre, etc. je remarque que plusieurs années plus tard, on est toujours un petit peu gêné par la difficulté. Voilà. Ils n'auront pas fait une M5S. Ah, bah la différence entre les gilets jaunes et le M5S, c'est que les gilets jaunes excluaient le jeu électoral et la participation au jeu électoral. Ils ne voulaient pas créer un parti, ils ne voulaient pas avoir de candidat. Ils n'ont donc pas créé de parti, ils n'ont donc pas eu de candidat, ils ont donc disparu. Voilà, on va le simplifier un peu comme ça, le mouvement des gilets jaunes. Le M5S, c'est le mouvement 5 étoiles qui a été créé en Italie par Beppe Grillo au début des années 2010, qui était un mouvement dégagiste, populiste, plutôt proche de l'extrême droite en réalité. C'est un peu les mêmes que la Manif pour tous, non? Ah non, je suis pas d'accord avec toi. La Manif pour tous, elle était diverse, c'est vrai. Mais la Manif pour tous, il y avait quand même beaucoup de catholiques. Il y avait beaucoup de familles nombreuses. Il y avait beaucoup d'électeurs de droite revendiqués. C'est pas tout à fait pareil que les gilets jaunes. La Manif pour tous, c'est pas la plus grosse manif du 21e siècle? Non. La Manif pour tous était une grande manifestation, à plus d'un million, 1,2 million, 1,3 million, je sais plus, de manifestants. À Paris. Il y avait avant ça le contrat première embauche, le CPE, en 2006, au cours duquel il y avait eu des manifestations massives également dans Paris, qui étaient des manifestations étudiantes et lycéennes. Après, il y a une manif dont on n'a pas pu mesurer la quantité, c'était pas vraiment une manif, c'était un rassemblement pour lequel on n'a pas pu mesurer le nombre de personnes présentes, c'était le rassemblement du 11 janvier 2015 à la mémoire de la rédaction de Charlie Hebdo. Où là, la préfecture a annoncé qu'on était à plus de 3 millions de personnes et qu'on ne pouvait pas mesurer, en fait. On ne pouvait pas mesurer. Voilà. Les retraites 95, oui, mais là, on parlait du 21e siècle. Manif anti-Le Pen en 2002, tu as raison. Ouais. Merci, Skybreeder, pour ton sub, merci. Ouais, t'as raison, t'as raison. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour la nomination du nouveau Premier ministre? Non. Nuit debout, c'était microscopique, hein. Enfin, pardon, hein, malgré tout le respect que j'ai, j'y étais, moi, c'est Nuit debout, c'était microscopique, hein. Vraiment. C'était impressionnant parce que ça durait tous les jours, parce qu'on se rassemblait tous les soirs, parce que machin, etc. Mais c'était tout petit, hein. C'était. Voilà, quoi. C'était un peu la gauche internet, quoi. C'était pas un mouvement populaire, Nuit debout, hein. C'était les facs de lettres en manif, oui, c'est ça. C'était des gens qui phosphoraient un peu sur la gauche, quoi. Ah ouais, la gauche, ouais. Mais ça, il y a un petit côté mai 68 où t'avais les étudiants de Normale Sup qui disaient ouais, la condition ouvrière et tout. Calme-toi, Charles Guillaume. Les Maoïstes de mai 68 vivant dans un pavillon. Il y a un super podcast de Thomas Legrand sur l'histoire du maoïsme en France. Super podcast. Il y a aussi un documentaire que j'adore mais qui est dur à trouver qui s'appelle Mes années Mao ou Nos années Mao, je sais plus si c'est au singulier ou au pluriel, qui raconte aussi le maoïsme. Bon, ça n'a pas duré longtemps le maoïsme en France et c'est pas resté comme une page. Très fier de l'histoire de la gauche française. Voilà. C'est bon, on oublie. On a peut-être défendu des conneries, on s'est peut-être un peu emporté dans notre gauchisme, on est peut-être allé défendre des trucs qui n'étaient pas franchement défendables. Ouais, bon, voilà. Comme quoi? Oh bah comme le régime de Mao Tse-Tung. Comme la révolution culturelle. Ouais, non, c'est pas bon. Alors bon, quand t'es étudiant à Normale Sup et que tu lis le petit livre rouge et que tu phosphores sur de la philosophie politique, ok. Mais bon, concrètement, il y a quand même des gens qui meurent, quoi. C'est quand même un système d'esclavagisme à grande échelle. Les camps de concentration, tout ça, c'est quoi? Non, ouais, non, non, en fait, non. Tout bien réfléchi. Une grande partie des maoïstes n'était pas au courant de ce qui se tramait en coulisses. Alors, c'est ce qu'ils disent. Non, en vrai, ils étaient au courant. Ils choisissaient de ne pas l'accepter. Ils dénonçaient les journalistes qui faisaient des reportages et tout comme étant des alliés de la CIA, des alliés des États-Unis, des capitalistes, etc. Voilà, ils disaient ces médias mentent, c'est le mensonge du capital qui refuse de dire au monde le succès phénoménal du maoïsme, du modèle Mao, du communisme international, etc. Voilà, il y a un moment juste, les mecs décidaient de pas l'accepter, c'est tout. Et c'est ni les premiers ni les derniers à faire ça. Hein. Il y a des gens qui sont aveuglés longtemps, quand même, sur l'URSS, sur Mao, sur plusieurs modèles comme ça. D'ailleurs, ce que raconte le documentaire Mes années Mao raconte comment des étudiants français maoïstes se sont fait payer un voyage par le parti et par la Chine pour aller en Chine rencontrer. Alors, peut-être pas Mao, mais des responsables du régime, machin, puis pour visiter le pays et tout. Donc, ils y sont allés. C'était des étudiants français et tout. Ils sont allés en Chine. Ils ont vu, avec leurs deux yeux, ce qui se passait là-bas. Ils sont revenus en France et ils ont dit à leurs camarades, chers camarades, comment vous dire? C'est pas ouf ce qui se passe là-bas. C'est pas dingue. J'en reviens, là, j'y étais. Non, non, pas ouf. Et du coup, leurs camarades leur répondaient, vous avez été retourné par la CIA, vous êtes devenus des agents de l'étranger. Vous êtes exclu de l'Assemblée générale, vous êtes exclu du mouvement. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, quoi. Le mouvement s'est purifié. Ah, le mouvement s'est purifié en purgeant, oui. Ah, on pratiquait ça beaucoup à l'époque, la purge. La purification par la purge. Ah, ouais. Fais ton autocritique, camarade. J'ai eu le même phénomène quand j'étais à la fac. J'ai rencontré un syndicaliste qui s'était rendu en Allemagne de l'Est et qui avait dit « Ouais, bof !» Ouais, quelqu'un qui s'y connaît en conditions de travail, qui est allé voir les conditions de travail justement en URSS et qui s'est dit « Ouais, non. Non, c'est pas le paradis des travailleurs, non. » Oh. Donc bref, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Ouais, on parlait des plus grandes mobilisations du 21e siècle en France. Ouais. Donc on verra. Je vous suggère de vous abonner à ma chaîne parce qu'il va se passer des dingueries sur cette chaîne. Et on va suivre notamment la rentrée sociale parce qu'il est possible effectivement qu'il y ait en France un mouvement social massif de grève, de manifestation, de mobilisation qui pourrait éventuellement participer à changer la donne parlementaire, inciter Macron à nommer un gouvernement de coalition ou de compromis. Donc ouais. Macron démission. J'ai toujours trouvé ça nul, moi, le slogan Macron démission. Parce que la démission de quelqu'un, c'est un acte volontaire, par définition. C'est à lui qu'il revient de prendre la décision de quitter son poste. C'est ça une démission. Mais quand t'es opposé à Macron, tu n'attends rien de Macron. Tu n'attends pas de lui qu'il prenne une décision. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça très 5ème République de dire Macron démission, Macron démission. Bah non, 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 non. Non, faut dire Macron destitution. Ou Macron défaite dans les urnes. Macron plié par les électeurs. Enfin, je sais pas. Faut dégager Macron. Faut pas attendre de lui qu'il prenne la décision de partir. Tu vois ce que je veux dire? Macron explosion, c'est nullissime aussi. Non, non, c'est de la merde. Bah bon, ça a été marrant pendant 2 semaines, le Macron explosion. En vrai, ça fait plusieurs années, maintenant on peut se le dire, c'est plus très drôle. Macron à la lanterne. Donc ouais, non, 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 ouais, j'ai toujours eu du mal avec ce slogan, machin démission. Bah non. Je suis d'accord, destitution, ça paraît plus approprié. Destitution, ça paraît plus approprié. Après, le problème de la destitution, c'est que c'est une procédure prévue par la Constitution avec des conditions. Si Macron ne remplit pas ces conditions, bah, il peut pas être destitué. Donc ça peut effectivement être un slogan un peu vain. Donc non, 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 enfin bon, moi je ne suis personne, hein, je n'appartiens à rien ni à personne, je m'en fous, mais je me dis que si vous voulez avoir des slogans efficaces, plutôt que de... Enfin, genre, parlez pas de Macron dans vos slogans, en fait, juste parlez pas de lui. Voilà. Parlez de ce que vous souhaitez voir advenir. Merci Omic, merci Gracile, merci Nico, merci Temps de Cuisson pour vos subs, merci beaucoup. Tu dis ça parce que t'as été retourné par la CIA. Ouais. Il paye bien, mais il paye en dollars. C'est ça qui est chiant. Dollars, le taux de change est pas dingue en ce moment. L'avenir en commun? Ouais, si vous êtes insoumis, dites l'avenir en commun. C'est un bon slogan, ça. C'est le nom de votre programme. Très bien. Enfin bon, moi je suis pas très bon hein, pour trouver des slogans de manif. Hein, pas ma spécialité. C'est quoi ta spé? Non mais moi je suis un Pokémon spé institution. Moi je fais de la, je, moi je suis fort sur la politique institutionnelle. 49-3, oui, destitution. Motion de censure, budget, tout ça, tout ça, responsabilité du gouvernement. Je suis pas très fort en philosophie politique, je suis pas très fort en économie politique, je suis pas très fort en, je suis pas très mouvementiste. Suis pas très fort en histoire non plus. Par contre, je suis pilote d'avion. M'assied, ça me sied. Que va-t-il se passer avec le budget en septembre, à ton avis? Oh, la bonne question! Sais pas. Non, vraiment, vraiment, je ne sais pas. Hein. J'attends de voir si Macron nomme un Premier ministre avant septembre. J'attends de voir sur quelle base un budget sera voté. D'autant que, malheureusement, le gouvernement, quel qu'il soit, même si c'est le gouvernement démissionnaire, il aura bien du mal à boucler un budget parce que la France est scrutée de très très près actuellement pour son déficit. La note de la France est en passe d'être à nouveau dégradée. L'Union européenne n'est pas très loin de faire entrer la France en procédure de déficit excessif. Ouais, non, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Merci Angélus pour le sub offert. Donc en vrai, que ce soit Lucie Castet ou quelqu'un d'autre, bon courage. Hein. Bon courage pour boucler un budget là. Surtout si t'as promis à tes électeurs des dingueries. Peut-être falloir leur annoncer que ça va être pour plus tard les dingueries. Que là, on n'a pas trop les moyens, quoi. Il y a d'autres pays qui sont visés par l'Europe. Oui, on n'est pas les seuls, mais enfin quand même. Alors, Pour rappel, quand même, la France a déjà été en procédure de déficit excessif pendant plusieurs années. C'était à partir de la crise de 2008-2009, dans ces eaux-là, et on est resté en déficit excessif jusqu'en 2017-2018. C'est Macron qui a sorti la France de la procédure de déficit excessif. Et là, il se pourrait qu'on y retourne. On verra. Tu penses que le NFP pourra réellement taxer les plus riches? Je pense que le NFP aura besoin de trouver une majorité. Si d'aventure le NFP était nommé à Matignon, virgule, le NFP aurait besoin des votes soit des macronistes, soit du RN. Est-ce que le RN est favorable au fait qu'on crée une taxe sur les hauts patrimoines? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. À voir. Mais la question que tu poses est la bonne. La question, c'est celle de la capacité, c'est pas celle de la volonté. Il s'agit pas de vouloir, là, il s'agit de pouvoir. Qu'est-ce que le NFP pourrait faire s'il était au pouvoir? Est-ce qu'il aurait les moyens politiques d'appliquer son programme? Probablement pas. Pas dans ces conditions, en tout cas. Bref, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On va continuer à suivre ça. On va continuer à suivre ça de près. Merci les copains pour votre. Présence. Merci d'avoir été là. C'était cool. Je vous fais des bisous bien transpirants. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve je sais pas quand pour faire je sais pas quoi. Merci d'avoir été là. C'était cool. Bisous les amis, à très bientôt. Ciao ciao.